Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, les très mauvais chiffres de la sécurité routière en février. Nombre de morts en hausse de 17%. Tous les indicateurs sont dans le rouge. Alors est-ce la conséquence de la dégradation des radars? Nous voyons cela dans un instant. Comment mieux aider les personnes âgées dépendantes? Rapport très attendu, remis en ce moment même à la ministre Agnès Buzyn. Moins de personnes âgées en EHPAD, davantage à domicile ou entre les deux. Les métiers du grand âge mieux valorisés, mieux payés. Un guichet unique pour les familles. Et l'impôt qui servait jusque-là à rembourser la dette de la Sécu pour financer tout cela. Les détails avec Lisa Guyenne et l'invité du journal de 13h, le spécialiste de ces questions, Luc Broussy. Quand l'antiracisme mène à la censure, nous vous raconterons l'histoire de ce spectacle empêché lundi soir à la Sorbonne. Les catholiques de base veulent une vaste remise en cause pour répondre au scandale sexuel. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour.
La presse catholique ouvre très largement le débat en ce moment et dans le diocèse de Lyon, Delphine, flotte un parfum de rébellion.
Oui, jusque-là, sur la réserve, parfois apeurés, prêtres, diacres, laïcs ont quasi unanimement dit qu'il voulait le départ effectif du cardinal Barbarin. C'était mardi dans le huis clos d'une assemblée générale.
Vous nous raconterez tout cela. Dans ce journal encore, le pétrolier détourné par les migrants qui ne voulaient pas rentrer en Libye est arrivé à Malte. Le dentifrice au dioxyde de titane, est-ce que c'est grave? C'est le cas des deux tiers d'entre eux. Comment dire du mal de l'Europe à La Réunion qui vit largement de fonds européens? C'est le dilemme de Marine Le Pen. Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Météo France, soleil.
Oui, grand soleil même cet après-midi en Bretagne et de la Nouvelle-Aquitaine au Jura et au quart sud-est. Le temps est un peu plus variable ailleurs. L'impression reste quand même bien lumineuse avec souvent de belles éclaircies. Hormis entre la Haute-Normandie et le Nord-Pas-de-Calais qui auront un ciel plus chargé et même parfois couvert. Et puis les températures sont en hausse de 12 à 20 degrés du nord-ouest au sud-est.
Et puis que fabrique l'artiste JR dans la cour du Louvre? Il va célébrer à sa manière les 30 ans de la pyramide.
Je suis de cette génération où j'ai toujours connu la pyramide. Donc en fait, comme pour moi elle a toujours existé, je viens l'observer, jouer avec et interroger la pyramide, mais plutôt sur la question du sens qu'on lui donne. Les gens traversent le monde entier pour venir au Louvre, se retrouvent devant la pyramide et prennent un selfie en lui tournant le dos.
Et ça passe évidemment par une vaste entreprise de collage avec plein de bénévoles. On vous raconte ça à la fin de ce journal. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
2019 a commencé de manière funeste sur les routes de France. Deux mois consécutifs de hausse de la mortalité, plus 4% en janvier, plus 17% en février. Nombre de morts, nombre d'accidents, nombre de blessés, tous les indicateurs sont en hausse. 253 personnes tuées en février. En hausse notamment le nombre de piétons et de cyclistes victimes. Bonjour Adrien Bossard.
Bonjour.
Comment peut-on expliquer ces chiffres?
La sécurité routière pointe du doigt la dégradation des radars. Des radars bâchés ou maculés de peinture, une image assez fréquente le long des routes depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Début mars, le ministère de l'Intérieur estimait que 3 radars sur 4 étaient soit totalement détruits, soit détériorés. Pour Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la sécurité routière, c'est l'une des raisons principales de la hausse de la mortalité en février.
Le sentiment dans la population que les radars ne marchent plus libère un certain nombre aussi de gens dont le comportement pour le compte est très dangereux. C'est pas une majorité, pas du tout, mais ça provoque ça. C'est-à-dire que quelque part, il y a, passez-moi l'expression, une forme de sentiment de carnaval. Les règles sont suspendues. Je sais que le radar marche plus, alors je ne fais plus très attention au compteur. Et ça fait mécaniquement de la mortalité. Quand la moyenne des vitesses remonte, le nombre des morts remonte.
Ce ne sont pas des grands excès de vitesse, dit-il, plutôt des petits écarts. Ils sont 4 fois plus nombreux dans les zones de radar, car s'ils ne peuvent pas prendre de photos de qualité, les capteurs, eux, fonctionnent et enregistrent la vitesse. Ces petits écarts peuvent expliquer le nombre de cyclistes tués en février, 18, principalement hors agglomération, du jamais vu depuis 10 ans sur un mois de février.
Merci Adrien. Est-ce que par ailleurs cela remet en cause le choix du Sénat? Hier, les sénateurs ont adopté contre l'avis du gouvernement un amendement qui permet au département ou au préfet de remettre en cause au cas par cas les 80 km/h. 1,5 million de Français ont plus de 85 ans aujourd'hui. Ils seront, nous serons, 5 millions de plus de 85 ans en 2050. Davantage de personnes âgées? Tant mieux, on vit de plus en plus vieux et en bonne santé, mais aussi plus de personnes âgées dépendantes. Comment prendre soin d'elles? C'est une très vaste question de société. Cela a un coût, évidemment, estimé à 10 milliards d'euros par an. Un rapport élaboré après 5 mois de concertation est remis en ce moment même à la ministre de la Santé et des Solidarités, Agnès Buzyn. Bonjour Lisa Guyenne.
Bonjour Bruno.
Rapport élaboré avec le haut fonctionnaire Dominique Libault qui contient 175 propositions. Que retient-on de ce rapport?
Oui, vous l'avez dit, un rapport très dense avec 175 propositions. Donc parmi les plus importantes, il y a d'abord l'idée d'un plan national pour revaloriser les métiers du grand âge. Une mission sur ce sujet sera lancée très prochainement, selon la ministre. Il est aussi question des EHPAD, besoin de recruter davantage et de rénover plusieurs bâtiments vétustes. Autre grande ligne de ce rapport, la baisse du reste à charge afin de garantir un accès plus équitable aux soins, ou encore la création de guichets uniques par département pour simplifier la prise en charge des seniors et des aidants. Pour tout cela, bien sûr, il faut de l'argent. Le rapport préconise d'augmenter de 35% le budget consacré aux personnes âgées dépendantes d'ici 2030. Enfin, côté financement, il ne sera visiblement pas question d'un nouveau prélèvement obligatoire, pas non plus d'une nouvelle journée de solidarité. En fait, on irait plutôt puiser dans des budgets déjà existants, comme le fonds de réserve des retraites, les excédents du régime général ou encore la CRDS, la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Un projet de loi sera en tout cas présenté dès l'automne en Conseil des ministres.
Merci Lisa, nous allons détailler à nouveau tout cela avec l'invité de ce journal, Luc Broussy. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Spécialiste des questions de vieillissement. Alors il y a 175 propositions dans le rapport dévoilé aujourd'hui. Essayons de fixer un cadre général. Pour vous, où est l'essentiel pour répondre à cette question du vieillissement et de la dépendance? C'est une question d'argent, une question d'hommes et de métiers, une question de structure. Où doit être mis l'accent?
Écoutez, moi je vois d'abord un premier sujet qui est que si on veut milliards d'euros demain, c'est pour embaucher du personnel. Et pour embaucher du personnel, il faut que ce personnel existe. Je le dis à tous vos auditeurs et notamment aux plus jeunes, 180 000 créations d'emplois entre maintenant et 2030. 2030, c'est pas c'est après-demain. 180 000 créations d'emplois dans ce secteur. Voilà ce dont on aura besoin. Donc, que la ministre veuille lancer un plan métier pour encourager les jeunes générations à embrasser ces carrières, c'est, j'allais dire, le début du commencement du sujet que l'on est en train de traiter. Mais 2030, c'est toute la génération des baby-boomers, celle née à partir de 1945, qui va entrer dans l'âge dans le grand âge, c'est-à-dire au-delà de 85 ans. Donc il nous faut former entre 150 000 et 200 000 personnes dans les 10 ans à venir, et pour ça, il faut que les carrières soient attractives.
Alors, revalorisation des métiers, formation, rénovation des EHPAD aussi?
Il y a une mesure forte qui était attendue, soyons clairs. Pendant trop longtemps, on a hésité. Là, le cap est donné. Plus 25% de personnel en EHPAD d'ici 2024. Donc, c'est un effort. Alors, on pourra toujours dire peut mieux faire. Mais enfin, bon, plus 25%, c'est déjà très bien. Donc, en tout cas, la trajectoire est fixée. Il faut augmenter les ratios de personnel dans les EHPAD. C'est une nécessité... D'abord parce que l'actualité l'a montré depuis des mois, les personnels n'en peuvent plus, ils sont sous pression. Fixer le cap de plus 25% de personnel dans les EHPAD en moyenne à horizon 2024, c'est vraiment une bonne nouvelle.
Dans les derniers jours et dernières semaines, un élément du débat qui revenait, c'était il faut aussi développer le maintien à domicile. Est-ce que de ce point de vue-là, le rapport est à la hauteur?
Alors en tout cas, il fixe là aussi la priorité. Mais... moi, j'insiste sur un concept que je trouve intéressant. Plutôt que rester à domicile, les gens veulent rester chez eux. Voilà. Et ce qui va changer dans les prochaines années, c'est que le chez eux va prendre une autre forme. On pourra avoir des habitats partagés, des colocations, des résidences seniors. Même l'EHPAD doit se transformer pour qu'à la fin, on s'y chante chez soi. Mais le chez soi, vous voyez, ça ne peut pas être ad vitam aeternam, le fait de rester dans une maison avec un jardin, avec des escaliers, tout ce qui aujourd'hui est un facteur de fracture du col du fémur et de dépendance. Donc, ce que dit le rapport aussi, c'est que c'est la notion même de ce domicile qui doit évoluer avec les générations. De plus en plus, on voudra être plus en centre-ville, on voudra, quand on n'a plus de voiture, être près des commerces, on voudra être dans un appartement accessible. Donc, rester chez soi, oui. Rester dans le chez-soi qui est le même depuis 30 ans, probablement pas. Une autre mesure qui va coûter cher et qui intéressera vos auditeurs, c'est que on voit beaucoup de familles qui peuvent payer un an, deux ans, mais au bout de quelques années, on est obligé de vendre la maison, voilà. Le rapport propose un bouclier dépendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout de 3 ou 4 ans, eh bien, la personne qui est en EHPAD pendant une telle durée, anormalement élevée, faut bien le dire, eh bien, serait prise en charge intégralement.
Alors pour tout cela, monsieur Broussy, il faut évidemment des sous, plus 35% pour le budget consacré aux seniors dépendants. Où est-ce qu'on va chercher ce plus 35%? Est-ce qu'on prend l'argent des retraites? Est-ce qu'on organise une journée de solidarité? Quelles sont les bonnes pistes et de votre point de vue, la bonne solution?
En tout cas, certainement pas la journée de solidarité. Parce que la journée de solidarité rapporte 2 milliards. Là, ce que je viens de vous décrire, qui est dans le rapport, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est à terme 10, 15, 20 milliards. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes échelles.
Donc on est plutôt sur un report de l'âge de la retraite, sur un allongement de la durée de cotisation ?
Pas du tout, pas du tout. Ça, c'est je sais que depuis quelques jours, ce scénario a tendance à être décrit. Non, le rapport Libo propose une autre solution qui me paraît excellente. C'est le recyclage. Alors c'est un peu technique, mais de la CRDS. Tout le monde paye depuis 20 ans.
La dette de la Sécu, pour le dire vite.
C'est voilà, on paye, chaque Français paye une cotisation pour rembourser la dette de la Sécu. Or, cette dette va s'effacer à partir de 2024. Donc, il est possible de maintenir le prélèvement qui existe déjà aujourd'hui. Sauf que la recette, au lieu d'aller vers la dette de la Sécu qui aura été résorbée, eh bien, on change juste le tuyau de direction pour aller vers la dépendance. Et là, c'est 10, 15, 20 milliards d'euros. On est sur une autre dimension.
Une dernière question, Monsieur Broussy, que fait-on des aidants et pour les aidants?
Là aussi, c'est un, comme on est en perte d'autonomie de plus en plus tard, 85, 90 ans, eh bien, les enfants, ou les conjoints, évidemment, mais même les enfants sont déjà souvent des retraités. Il y a quelque chose qui est fondamental, et heureusement que vous me posez la question, sinon j'aurais oublié de le souligner. C'est qu'un des sujets d'angoisse, au-delà de l'argent, au-delà de trouver une place en EHPAD, c'est quand un parent ou un conjoint, eh bien, tombe dans une situation de dépendance de manière un peu brutale, l'angoisse, c'est à quelle porte taper? Où trouver une aide? Où trouver une place en maison de retraite? Comment je peux être soutenu? Le rapport Libo propose, dans tous les départements de France, la création d'un guichet unique, la maison des aînés et des aidants. Et donc, il y aurait dans tous les départements de France un numéro d'appel, un lieu pour se renseigner. Donc, cette aide-là, qui consiste à rendre le chemin plus lisible et plus visible par les familles et donc par les aidants, c'est vraiment une mesure forte.
Merci Monsieur Broussy d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Et à l'instant, la ministre Agnès Buzyn annonce une grande loi sur la dépendance à l'automne en Conseil des ministres. L'entretien avec Luc Broussy a été enregistré en fin de matinée. Cette question essentielle de la prise en charge de la dépendance, on en reparle dans le téléphone sonne de Fabienne Sintès. Le standard ouvre à 18h 01 45 24 7000 et franceinter.fr.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Comment mieux dire le degré de tension autour du sort des migrants en Méditerranée? L'histoire des 108 migrants secourus par un pétrolier mardi au large de la Libye. Le navire devait les ramener d'où ils venaient. Ils ont détourné le navire. On a commencé à vous raconter cette histoire sur France Inter. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
Le bateau est arrivé ce matin à Malte.
Oui, alors retour pour des faits assez simples finalement. Des migrants ont été secourus mardi soir dans les eaux internationales par un pétrolier ravitailleur. Ils étaient 108, 77 hommes et 31 femmes et enfants. Une fois le sauvetage terminé, le capitaine du bateau a mis le cap sur la Libye. Il faut savoir que ce sont les Libyens qui ont pour mission de coordonner ces opérations de sauvetage. Mais voilà, à 6000 nautiques de l'arrivée, le bateau a subitement changé de direction, cap au nord, vers l'Italie et Malte plus précisément. Il faut dire qu'entre-temps, les naufragés ont réussi à prendre le contrôle du bateau avec pour objectif ne surtout pas revenir en arrière, c'est-à-dire de là où ils sont partis, Tripoli, car ce retour à la case départ est souvent synonyme d'horreur. La semaine dernière, le sous-secrétaire général aux droits de l'homme de l'ONU avait évoqué les tortures et viols subis par nombre de migrants en Libye et appelé l'Union européenne à revoir son soutien aux gardes-côtes libyens. Ce matin donc, fin de l'aventure, le bateau est arrivé à Malte où il a été pris en charge par les autorités. Fin de la crise humanitaire mais pas politique, puisqu'elle remet le problème des réfugiés à la une de l'actualité. Le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini a immédiatement monté au créneau en expliquant que les réfugiés sont pour lui en réalité des pirates et qu'il n'est pas question qu'il pose le pied en Italie.
Merci Nathanaël. À propos de crise politique, un mot de la Grande-Bretagne. Un troisième vote sur l'accord entre Theresa May et les 27 sera soumis aux députés britanniques vendredi. Boris Johnson, l'un des adversaires de Theresa May, estime que cet accord est d'ores et déjà mort. En Algérie, pour faire la révolution en ce moment, il faut être calé en droit constitutionnel. Le dernier développement en date, alors que les manifestants restent mobilisés, nouvelle journée dans la rue demain. Le dernier développement, eh bien, c'est le chef d'état-major qui propose qu'Abdelaziz Bouteflika soit destitué pour inaptitude à exercer sa charge. Est-ce que la Constitution le permet vraiment et dans quelle mesure? Parmi les initiatives lancées dans la capitale, il y a celle d'un cours de droit constit pour débutants auquel a assisté Leïla Berato.
Est-ce qu'un citoyen peut saisir le Conseil constitutionnel ?
Ils sont un peu plus de 20, réunis à la fin de la journée dans un lieu d'exposition du centre-ville. Au centre, Massensen Cherbi, enseignant en droit public.
L'actualité est brûlante et comme vous le savez, hier, le général Ahmed Gaït Salah a appelé, à la surprise générale, à l'application de l'article 102 de la Constitution.
Ce doctorant, installé habituellement en France, tente d'expliquer les origines des dispositions de la Constitution algérienne, ses limites mais aussi les mécanismes impliqués dans la situation politique actuelle. Fouzia, salarié dans une entreprise d'audit, est venu avec son collègue.
J'aurais préféré approfondir un peu plus le débat. Voilà, je reste encore sur ma faim. On se pose tous la même question. Voilà. C'est-à-dire on a au fait une seule préoccupation, quoi. Qu'est-ce qui va se passer après ?
Non, mais là, on est en dehors de la Constitution. Hein.
Certains prennent des notes, d'autres tentent de comprendre comment ils peuvent avoir une position plus active dans la crise. Mourad travaille dans une entreprise audiovisuelle.
Je suis venu pour voir et pour proposer des idées, d'écouter et mieux comprendre la Constitution.
Les cours se terminent alors qu'il fait nuit noire. Prochain rendez-vous pris dès ce week-end. À Alger, Leïla Berato, RFI pour France Inter.
À la cour d'assises de Toulouse, l'affaire du meurtre de Patricia Bouchon, cette joggeuse tuée en 2011, l'avocat général requiert l'acquittement de l'accusé. Il manque, estime-t-il, la preuve ultime. Si l'Église n'est pas transformée par ceux qui la dirigent, le changement pourrait bien venir de la base. Nous allons dans le diocèse de Lyon, celui du cardinal Barbarin, avec vous Delphine Evenou. Le pape a refusé la démission du cardinal, condamné en première instance pour non-dénonciation de crimes pédophiles. Il y aura un appel. Voilà pourquoi, entre autres, le pape a refusé la démission. Delphine, c'est désormais la base qui fait fortement pression pour tourner la page Barbarin.
Oui, une petite révolution feutrée qui s'est jouée mardi lors d'une assemblée générale. Les laïcs, les diacres, les prêtres du diocèse de Lyon réunis pour discuter du cas Barbarin. Ils sont 48 sur 50 à avoir demandé le départ effectif du cardinal et non un simple retrait. Si le malaise de la base du diocèse de Lyon est palpable depuis des mois, il se faisait jusque-là entendre hors des micros. Des membres du diocèse parfois apeurés, il faut le dire, par de potentielles représailles. Mais pour la première fois, un prêtre du diocèse lyonnais prend la parole publiquement après cette assemblée. Le cardinal doit partir, explique le père Michel Raquet au micro de Jérôme Jadot.
La situation est quand même incroyable d'avoir un évêque qui se retire, enfin qui dit s'être retiré, et puis un pseudo-administrateur diocésain, et puis deux évêques auxiliaires. Enfin, pour le bien de l'Église, même si c'est dur pour lui, je pense qu'il faut quand même que lui-même accepte de tourner la page, c'est-à-dire de tourner sa propre page. Oui. De partir vraiment, c'est-à-dire de démissionner vraiment et de faire accepter sa démission au pape.
Le vicaire général Yves Baumgarten, qui gère les affaires courantes, a rendez-vous en début de semaine prochaine à Rome. Il va aller porter la voix de la base catholique auprès du Vatican. C'est peut-être, même si cela prendra du temps, le début d'un changement de très grande ampleur dans la gouvernance de l'Église catholique.
Et le nombre de personnes qui ont une image négative de l'Église de France est désormais majoritaire. C'est un sondage dans l'hebdomadaire Témoignages chrétiens. La politique, dans moins de deux mois, les élections européennes. Le rythme de la campagne s'accélère pour Marine Le Pen. Maxence Lambrecq en campagne à La Réunion. Un dilemme, comment dire du mal de l'Europe dans une région qui en bénéficie très largement ?
Dès son arrivée à l'aéroport Roland-Garros, Marine Le Pen pestait contre une affiche bleue dans le hall. Avec l'Europe, La Réunion se construit. C'est de la propagande, s'énerve-t-elle, son sac à la main.
Parce que ça consiste à culpabiliser les Français en disant « mais vous devriez vous mettre à plat ventre devant l'Union Européenne, regardez comme elle est gentille, elle nous donne de l'argent ». Non, elle nous restitue notre argent et encore en pompant chaque année 9 à 10 milliards. C'est quand même pas rien.
L'île de la Réunion, en tant que région ultra-périphérique, reçoit chaque année près de 300 millions d'euros de l'Union européenne qui finance tout un tas de projets. La France seule verserait-elle cet argent ici ? Non, répondent les élus de la majorité. Et alors, complète Marine Le Pen qui, pour s'en sortir, élargit le débat.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas que les subventions dans la vie. Il y a la qualité de la vie aussi. Et la qualité de la vie, elle passe par l'enseignement qu'on donne à nos enfants, elle passe par le fait de vivre en sécurité, par la qualité de la nourriture qu'on mange, elle passe par tout ça.
Toujours est-il que dans son projet pour l'outre-mer, Marine Le Pen s'engage à maintenir les fonds structurels européens. Elle n'a pas vraiment le choix. Rappelons qu'ici, près de 30% de la population est au chômage. La patronne du RN veut rassurer un électorat ultramarin qui l'avait placé en tête du premier tour de la présidentielle. Saint-Denis de la Réunion, Maxence Lambrecq, France Inter.
Emmanuel Macron est en campagne à sa manière. Le grand débat continue. Le président à Angers aujourd'hui. Les salariés de la papeterie Arjou-Wiggins, menacés de liquidation judiciaire, pas très loin, c'est dans la Sarthe, aimeraient lui parler. Ce n'est pas gagné. En tout cas, ils ont fait irruption dans la gare d'Angers ce matin. Circulation des trains perturbée. La papeterie emploie 580 personnes. Chez Carrefour, 1200 postes devraient être supprimés cette année. Aucun départ contraint, promet la firme. On verra si la promesse est tenue. Concerné, beaucoup de postes d'encadrement, dit-on à la CFDT. Et puis Philippe Lefebvre, bonjour Philippe.
Bonjour Bruno.
À travers cet épisode, c'est aussi la configuration des supermarchés Carrefour dans l'avenir qui se redessine.
Eh oui, les magasins seront plus petits, il n'y aura plus de rayons bijouterie par exemple. Les rayons électroménager, télévision passeront en libre service, donc terminer les conseils avant l'achat. Ou alors, ces rayons seront sous-traités, comme c'est déjà le cas dans plusieurs magasins, au groupe Fnac Darty. Les autres rayons subiront une cure d'amaigrissement avec une baisse de 15% des marques et des produits vendus, ce qui veut dire moins de choix pour les consommateurs. Et puis à l'extérieur, eh bien, les stations-service seront toutes automatisées. Alors, ce n'est pas la première fois que Carrefour annonce des changements de stratégie ou de positionnement. Les derniers changements, il faut bien le reconnaître, se sont souvent soldés par des échecs. Mais cette fois, le groupe affirme vouloir se recentrer sur l'essentiel, l'alimentation, autour de trois grands pôles, les produits frais, les circuits courts et les produits bio. D'ailleurs, Alexandre Bompard, le patron de l'enseigne, se fixe pour objectif de devenir à court terme le leader de la démocratisation des produits issus de l'agriculture biologique. Mais derrière tout cela, il y a un objectif supprimé. Tout ce qui n'est pas rentable dans les magasins, mais aussi à l'extérieur. Ainsi, terminer les partenariats avec le Tour de France, mais aussi avec l'équipe de France de football. Mine de rien, c'est 11 millions d'euros d'économisés par an.
Et chez Carrefour ou ailleurs, vous achetez sans doute du dentifrice au dioxyde de titane. Les deux tiers des dentifrices contiennent cette substance controversée parce qu'elle contient des nanoparticules. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Les deux tiers, le comptage est mené par l'association Agir pour l'environnement qui demande l'interdiction de cette substance dans les dentifrices.
Oui, l'association a scruté les étiquettes des ingrédients de 408 dentifrices vendus, comme dans cette supérette du 18e arrondissement de Paris, Magali Ringot de l'association Agir pour l'environnement.
On a des dentifrices pour enfants. Là, c'est 7 ans. On va regarder l'étiquette. C'est vraiment tout, tout petit, oui. 77 891, bingo, dioxyde de titane.
Presque tous les dentifrices, même bio ou achetés en pharmacie, contiennent du dioxyde de titane. Ce colorant sert à rendre la pâte plus souple, plus jolie, à donner par exemple un effet pailleté. Mais il contient des nanoparticules. Le gouvernement s'était engagé à interdire le dioxyde de titane dans l'alimentation mi-avril. Pour Magali Ringot, il faut désormais aussi l'interdire dans les dentifrices.
Dioxyde de titane, quand il est ingéré, il peut provoquer des lésions précancéreuses du côlon chez les rats qui ont consommé du dioxyde de titane pendant seulement 3 mois, des troubles du système immunitaire. On sait que quand il est inhalé, c'est un cancérigène probable. Il va être interdit très prochainement dans l'alimentation en raison des dangers qu'il présente.
L'association Agir pour l'environnement a rendez-vous cet après-midi à Bercy pour tenter de convaincre le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
Et Sandy, puisque vous êtes là, on rappelle que tous les éléments de notre journée spéciale, le plastique non merci, sont à retrouver sur franceinter.fr. Vous en avez été une des principales animatrices. L'expédition punitive contre des Roms en Seine-Saint-Denis. 8 personnes seront jugées en comparution immédiate aujourd'hui. C'est ce qu'annonce le parquet. Au nom de l'antiracisme, est-on arrivé à un contresens et une censure lundi soir dans un temple du savoir, la Sorbonne? Lundi devait être présentée à la Sorbonne une mise en scène des suppliantes d'Eschyle, le dramaturge grec. Parmi les personnages, il y a les Danaïdes venues d'Afrique. Elles devaient porter un masque aux traits négroïdes. Des militants antiracistes, avec le soutien du syndicat étudiant UNEF, ont empêché la tenue de la pièce. Pour eux, c'est ce qu'on appelle une blackface, pratique qui consiste à se déguiser pour se moquer des Noirs. Censure, répond le metteur en scène Philippe Brunet, et ordre moral, le débat avec Thomas Larabie.
Les actrices devaient à l'origine se peindre le corps en noir pour endosser leur rôle. Et selon les associations anti-négrophobie, ce n'est que sous la pression d'un groupe d'étudiants que l'université a voulu remplacer le maquillage par des masques. Des masques grossiers et inacceptables pour le président du CRAN, Guilain Védeux.
Des masques grotesques, avec des lèvres épaisses qui renvoyaient au même stéréotype raciste. Si des masques ne sont pas grotesques et qui ne renvoient pas à des caricatures racistes, bon, on peut réfléchir, c'est tout ce que nous demandons.
Et quand le metteur en scène répond qu'il a déjà monté une pièce au Niger avec des actrices à la peau noire portant des masques blancs.
Et on ne peut pas aujourd'hui nous dire, voilà, il y a des Noirs qui ont eu des masques blancs, donc on pourrait le faire dans l'autre sens. Non, ce n'est pas la même histoire. Les Blancs n'ont jamais été déshumanisés.
L'université réfute toute accusation de racisme. Elle compte bien reprogrammer d'ailleurs ce spectacle le plus vite possible. Le doyen de la faculté de lettres de la Sorbonne, Alain Talon, dénonce des groupuscules haineux et un non-sens total.
Se faire traiter de raciste est assez pénible. Si ces gens-là avaient lu la pièce des suppliantes, ça parle de l'accueil des migrants, ça parle de la libération des femmes, enfin, que ce sont des textes qui sont, oui, d'une actualité brûlante. Le blackface, c'est une pratique qui existe en effet, hélas, et qui consiste à se grimer pour se moquer des Noirs. C'est quelque chose, évidemment, nous condamnons avec la plus grande fermeté. Il n'y a jamais eu de blackface à la Sorbonne. Jamais.
Le seul point d'accord, un débat sur les blackface qu'universitaires et associations antiracistes appellent de leur vœu.
Commentaire du ministre de l'Éducation ce matin sur France Inter. Au nom de l'antiracisme, il y a une forme de racisme. La pyramide du Louvre fête ses 30 ans. C'est demain qu'ont lieu les célébrations et un artiste français, JR, joue un rôle clé. Le spécialiste du collage sur les monuments avait fait disparaître la pyramide il y a 3 ans. Là, il veut en quelque sorte faire comme si elle sortait de terre. On n'en sait pas plus, car le montage se poursuit en ce moment même dans la cour Napoléon. Il associe 400 bénévoles en train de coller des dizaines de feuilles de papier qui recouvriront toute la cour. Une caméra filme de haut, des écrans géants reproduisent. JR est un artiste qui parle rarement. Le voici au micro de Corinne Pellissier.
Je suis de cette génération où j'ai toujours connu la pyramide. Donc en fait, comme pour moi elle a toujours existé, je viens l'observer, jouer avec et interroger la pyramide, mais plutôt sur la question du sens qu'on lui donne. Les gens traversent le monde entier pour venir au Louvre, se retrouvent devant la pyramide et prennent un selfie en lui tournant le dos. C'est pour ça que j'avais fait disparaître. Cette fois-ci, j'ai envie, à travers ce collage gigantesque, que les gens qui coupent et qui sont inscrits, les gens qui collent, d'un coup fassent le spectacle, les gens qui passent puissent regarder ce spectacle et en direct qu'on suive le montage d'une œuvre qui imagine une pyramide complètement différente. Elle se voit que d'un point. C'est pour ça qu'on le retransmet sur 2 écrans géants. Et tout le collage, lui, est accessible des gens qui veulent venir s'approcher, regarder, filmer, et même dès ce week-end, marcher dessus. Et c'est ça, en fait, le projet que là, je peux montrer au grand jour ici, c'est qu'en fait, tous les projets sont faits par des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui se rejoignent pour créer une image.
Et ce sera donc dévoilé demain. Et demain matin, le président du Louvre, Jean-Luc Martinez, sera l'invité de France Inter. 2 mots de sport, une bonne nouvelle pour les amateurs de basket. Le premier match de la saison régulière de NBA en janvier prochain aura lieu à Paris. Ce sera entre Charlotte et Milwaukee. Et puis en foot, Ole Gunnar Solskjaer garde son poste. Il est nommé 3 ans entraîneur de Manchester United.